Il est 18h.
RJB Info.
Le journal, Martha Duarte, bonsoir.
Bonsoir. Omega met un pied dans le marché des montres d'occasion. La marque biennoise a introduit un certificat d'authenticité. Le but est de garantir plus de transparence et de distinguer les contrefaçons. Les arts visuels se mêlent à la danse à Sornetan. La coordination jeune public propose un camp combinant les deux disciplines. Cette semaine, 20 enfants de la région prennent part aux différents ateliers. L'offensive turque viole le droit international. Le Conseil fédéral condamne l'intervention de la Turquie en Syrie. Il a décidé d'adapter les sanctions envers Damas pour faciliter l'aide humanitaire. Et météo, le temps restera sec ce soir. Demain, le ciel sera en partie ensoleillé avec des passages nuageux denses. Il fera entre 5 et 8 degrés le matin, entre 16 et 18 au meilleur de la journée. Omega s'ouvre au marché des montres d'occasion. La marque horlogère a annoncé hier avoir élaboré un certificat d'authenticité pour les montres âgées de plus de 30 ans. Ce document doit permettre de garantir plus de transparence dans le marché des montres vintage. Il permettra aussi de distinguer plus facilement contrefaçon et garde-temps authentique. Les frais d'expertise s'élèvent à 800 francs. La marque biennoise n'est pas la seule à délivrer ce Certified Pre-Owned. Cette démarche laisse plutôt sceptique l'éditeur du site Business Montre, spécialisé dans l'horlogerie, Grégory Ponce.
Rolex ne fait pas de certificat, mais Patek Philippe en fait, et ça n'empêche pas les fausses Patek Philippe de proliférer sur le marché. Donc ce n'est pas une arme absolue, et c'est peut-être même une arme un peu illusoire. Deuxièmement, je suis un peu étonné par le prix, parce que mettre un certificat comme ça à 800-850 francs, c'est très cher pour des montres qui, la plupart du temps, peuvent valoir moins de 3000 francs. Maintenant, pour les vraies montres de collection, ça peut rassurer certains acheteurs, mais les faussaires dans les montres de collection sont tellement habiles que je doute qu'il y ait à la manufacture de vrais experts capables de dire que les aiguilles sont bien ou pas bien, que le cadran est bon ou pas bon. Tout au plus, verra-t-on dans les comptes de la manufacture à quelle date le mouvement a été fabriqué, à quelle date il est sorti de la manufacture et à qui il a été vendu. Pour le reste, pour ce qui est de l'authenticité des pièces, disons âgées de plus de 20 ans, là j'ai vraiment des doutes.
Pour la Fédération horlogère, ce certificat est un outil supplémentaire dans la lutte contre les contrefaçons. Le directeur de l'AFH, Jean-Daniel Pache.
On voit sur le marché actuellement des copies qui sont relativement bien faites. Et pour le consommateur, ça devient des fois pratiquement impossible de faire la distinction. Il faudrait pratiquement ouvrir la montre pour faire la différence entre le vrai et le faux. Et le fait d'accompagner le produit d'un certificat reconnu par la marque, ça peut être effectivement une garantie pour le consommateur.
Est-ce que vous encouragez les marques à le délivrer?
Nous n'intervenons pas dans ce type de démarche et d'activité. Ça, c'est les marques qui doivent décider elles-mêmes. Nous, par contre, lorsqu'on nous confie des produits à analyser, à ce moment-là, on est en possibilité de dire si le produit est un faux ou un vrai. Ça nous sert notamment de moyen de preuve face aux tribunaux ou dans des procédures lorsqu'on essaye de confondre des contrefacteurs.
Un sujet signé Anastasia Lirti. Nous avons contacté Omega, mais personne au sein de la marque n'était disponible pour répondre à nos questions. Un homme a été héliporté par la Rega cet après-midi à Perfitte. L'accident s'est produit peu avant 15h à la rue de l'Orgerie. Un véhicule a percuté un candélabre avant de faire un tonneau et de s'immobiliser. Le conducteur a été pris en charge par les ambulanciers. Il a ensuite été héliporté à l'hôpital dans un état critique. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche des témoins. Un chantier conséquent est en cours à Saint-Imier suite à un défaut constaté sur un câble basse tension. Les services techniques doivent procéder à d'importants travaux dans le secteur ouest de la rue des Jonchères. Les équipements électriques doivent être renouvelés entre les rues de la Brigade et des Fleurs. La circulation n'est autorisée que d'est en ouest. Il est par ailleurs interdit de se garer dans la zone des travaux. L'automne rime avec danse et désormais aussi avec art visuel à Sornetan. Le camp de la coordination jeune public se tient cette semaine sur le thème du musée. Pour la première fois, deux disciplines sont combinées, la danse et les arts visuels. 20 enfants âgés de 9 à 15 ans y participent. Nous sommes allés à la rencontre de ces artistes en herbe ce matin. Nous avons retrouvé un groupe à l'extérieur occupé à dessiner de jeunes veaux.
Damien, et puis j'ai le mois prochain 10 ans.
Damien, tu participes au camp en art visuel. Alors pourquoi tu t'es inscrit? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir?
J'aime beaucoup le dessin, les BD, et puis j'aime bien dessiner.
Tu fais quoi aujourd'hui?
Là, on va dessiner les animaux qui sont à la ferme juste à côté du camp.
Je m'appelle Alvina, j'ai 14 ans. Hier, on a fait une affiche de musée, on a créé des tampons avec des lettres et puis des cadres. Et du coup, on va créer une affiche. On a également fait des longues banderoles en papier où on a dessiné des objets qu'on avait d'abord dû deviner sous un drap. Et on a redessiné tout ce qui nous passait par la tête par rapport aux anciens dessins qu'on a fait avant.
Je m'appelle Célia Milani et je suis un des responsables d'art visuel au camp Danse et Art Visuel de Sorneton. Au camp Danse, qui est assez récent, on a de plus en plus de participants chaque année, mais il restait encore de la place. Alors on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de coupler ça avec un camp d'art visuel. C'était une envie qui planait un peu dans nos têtes depuis quelques temps avec la coordination jeune public. Et en fait, c'est deux arts complètement différents, mais qui se rejoignent sur plein d'aspects. Du coup, pour nous, c'est une chance parce que ça nous a vraiment éveillés à plein de créativité.
Comment ça marche ?
Je m'appelle Juliette et j'ai 10 ans. J'adore la danse et le dessin, c'est une de mes passions.
Tu peux me raconter un peu qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de la semaine ?
On a fait des dessins où on devait faire le mieux possible des personnages. Et puis, on a fait aussi plein de jeux et du flamenco.
Et puis en danse, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
La danse plutôt sur des chaises. On doit faire des statues.
On va alors les filmer ici maintenant avec la musique. Comme ça, on a un petit public. Et on fait tout ça, toute cette séquence, et après on vous dit position et vous faites ça.
Anaïs, et j'ai 12 ans.
Alors cette année c'est un peu spécial, il y a aussi des enfants qui font des arts visuels en même temps que vous faites de la danse. Comment ça se passe?
Mardi, ils sont venus, ils nous ont, comme si on était un peu des statues, puis ils nous ont un peu modelés, on va dire. Puis on a dû refaire ça dans une chorégraphie.
Parce que le but c'est que maintenant quand vous faites cette position, vous créez du contact entre vous. Comme on avait fait, vous vous souvenez?
Vendredi, vous présentez au public, aux parents, le fruit du travail. Comment ça va se passer?
Alors en fait, ça se passera au centre de Sorneton, parce que le thème du musée nous permettait de transformer ce centre en musée. Ce sera un musée assez mystérieux parce que chaque salle recèlera de surprises. On a justement quelques expositions de ce qui a été fait par les arts visuels, quelques chorégraphies qui ont été faites par les danseurs. Mais en fait, tout se rejoindra. Il y aura aussi des projections, plein de choses où les gens déambuleront de salle en salle et avec beaucoup de surprises.
Et les jeunes danseurs et dessinateurs présenteront leur travail vendredi à 19h au centre de Sorneton. Berne veut mieux protéger les minorités menacées. Dès le 1er novembre, la Confédération contribuera jusqu'à 500 000 francs au coût de sécurité qu'elles assument. Cette manne fédérale vise plus particulièrement les communautés juives et musulmanes, mais aussi les gens du voyage ou les groupes qui sont minoritaires en raison de leur orientation sexuelle. Dans le canton de Neuchâtel, la communauté israélite est concernée. Son président Bertrand Leitenberg.
C'est moins primordial pour la communauté israélite du canton de Neuchâtel qui a sa synagogue à La Chaux-de-Fonds, qui n'est pas un lieu très exposé. Évidemment, des grandes villes comme Genève, Zurich ou Bâle ont des coûts de protection qui sont absolument énormes et on comprend bien qu'une synagogue est quand même une cible dangereuse et ça concerne plus ce genre de communauté que nous.
Donc ça veut dire que la synagogue de La Chaux-de-Fonds, la CICN, ne va pas bénéficier de cette manne ?
Alors on a tout de même une protection plus légère que ce qu'on voit dans les grandes villes, mais on a quand même une sécurité d'un certain niveau. Et puis il y a des choses qu'on espère qu'on va pouvoir améliorer par rapport à ce qu'on a actuellement. Mais c'est des demandes très modérées par rapport aux besoins de certaines autres synagogues.
Qu'est-ce qu'il faut améliorer à la synagogue de La Chaux-de-Fonds ?
C'est principalement une sécurité de fermeture du portail tout autour de la synagogue, qui c'est un beau bâtiment, un bâtiment qui date de 1895, et qui a besoin d'être régulièrement remis à jour, et pour que les serrures ferment bien, il faut qu'on puisse les remettre en bon état.
Des propos recueillis par Claire Vigée. La Suisse pourrait fermer les yeux sur certaines transactions en Syrie. Le Conseil fédéral appelle aujourd'hui la Turquie à mettre immédiatement un terme à son intervention militaire en Syrie, jugée contraire à la charte des Nations Unies. Condamnant fermement les combats, elle se dit préoccupée par leurs conséquences humanitaires, soulignant que plus de 210 000 personnes ont fui dans le nord-est du pays ces derniers jours. C'est la raison pour laquelle il est prêt à assouplir le régime de sanctions prises contre des personnalités et entités syriennes. De Berne, les précisions de Jérôme Favre.
Le gouvernement veut faciliter le travail des acteurs humanitaires en Syrie. Il a donc décidé de leur permettre de faire des affaires avec des personnes, institutions et groupes syriens qui font actuellement l'objet de sanctions, comme un gel des avoirs par exemple. Mais attention, il est bien question d'autorisations exceptionnelles. Elles ne seront accordées que si ces transactions financières sont indispensables à l'acheminement d'aide à la population civile. En parallèle, le Conseil fédéral, qui s'inquiète des conditions de travail des organisations, demande aussi que l'accès immédiat, durable et sans entrave aux personnes en détresse leur soit garanti.
Et la Confédération rappelle dans son communiqué son engagement dans le cadre de la crise syrienne. L'aide humanitaire de 430 millions de francs depuis 2011 est la plus importante de l'histoire suisse. Et à l'étranger, les bases de l'accord de Brexit sont prêtes, selon Donald Tusk. Le président du Conseil européen l'a indiqué cet après-midi. Le texte pourrait se concrétiser dans les prochaines heures. En théorie, nous pourrions approuver cet accord demain, a déclaré Donald Tusk.
À l'écoute d'RJB, il est 18h11.
Sport.
Admir Mehmedi va manquer ses prochains jours à son club de Wolfsburg. Le milieu de terrain suisse souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse droite. Il avait dû quitter ses partenaires dès la première mi-temps hier soir face à l'Irlande. La durée précise de son indisponibilité n'a cependant pas été communiquée. Et en tennis, Belinda Bencic s'est qualifiée cet après-midi pour les quarts de finale du tournoi WTA de Moscou. La Saint-Galloise est venue à bout de la Slovène Polona Hercog en 3-7, 1-6, 6-3, 6-4. Elle affrontera en quart de finale la Belge Kristen Flipkens. Belinda Bencic doit au moins atteindre la finale à Moscou pour espérer se qualifier pour le Masters Dames de Shenzhen. Prochain point sur l'actualité à 18h30. Belle soirée.
Belle soirée à vous également, Martha Duarte. La suite de votre programme, c'est bien sûr la météo, un brin de musique et ensuite on prend l'air par ce beau temps. Faut y aller. Pour ce soir, le ciel devrait progressivement se voiler, mais nous resterons au sec durant la nuit. Attention, il fera par contre frisquet. Demain, nous nous réveillerons sous ce même soleil, mais les nuages ne seront pas très loin. Ils prendront même du volume au fil des heures jusqu'à prendre le dessus en fin d'après-midi. Ensuite, place aux averses. Concernant les températures, ça baisse. D'après Météo News, il fera entre 5 et 7 degrés à l'aube. Pour la seconde partie de journée, le mercure devrait atteindre au mieux 16 degrés dans le vallon de Saint-Imier, 18 degrés à Moutier, tout comme à Bienne. Vendredi sera pluvieux, tout comme ce week-end. Thank you.